RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 9,5-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi la mise au point de la semaine. Et ensuite, vous pouvez également écouter l'histoire d'aujourd'hui et mon Indonésie. La rubrique suivante, magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, nous allons vous présenter courrier et musique. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi la mise au point de la semaine.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
La Croix-Rouge indonésienne reçoit 10 camions citernes d'eau. Yusuf Kalla, le président de la Croix-Rouge indonésienne, ou PMI, qui est également vice-président de la République d'Indonésie, a reçu de PT Astra 10 unités de camions citernes pour les activités opérationnelles de la Croix-Rouge indonésienne dans toute l'Indonésie. Au siège du PMI à Jakarta, récemment, Yusuf Kalla a apprécié l'aide comme une forme de responsabilité sociale des entreprises. La Croix-Rouge indonésienne est une aide humanitaire. Nous remercions l'Alastra parce que la tâche de l'entreprise, l'une des fonctions de l'entreprise, est d'aider la communauté. Yusuf Kalla a également demandé à PMI d'améliorer ses services à la communauté avec l'ajout de 10 camions citernes d'eau. Selon lui, l'eau est un besoin fondamental pour aider les missions humanitaires, notamment dans la gestion des catastrophes naturelles et la calamité en Indonésie. Le président directeur de PT, Priyono Sugiharto, a directement remis le don symboliquement au président du PMI, Yusuf Kalla. Il espère que cet assistant peut aider PMI. Pour améliorer ses performances, PMI vise à avoir 100 camions citernes en 2019. Le café indonésien est favorisé par le peuple de la Corée du Sud. L'Indonésie est le quatrième plus grand producteur de café au monde, a une chance sur le marché sud-coréen, bien que le café indonésien soit encore au 13e rang sur le marché du café sud-coréen, au Vietnam et aux États-Unis. Cela a été déclaré par l'ambassadeur de la République d'Indonésie en Corée du Sud, Umar Hadi, à la Voix de l'Indonésie vendredi le 6 avril. Pour améliorer la position du café indonésien sur le marché du café sud-coréen, l'Indonésie a participé à l'exposition internationale du café Seoul 2018 qui s'est tenue au COEX Centre Seoul du 4 au 8 avril 2018. Selon Umar Hadi, à cette exposition, la société sud-coréenne répond bien sur le café de l'Indonésie. Ceci est attesté par la transaction qui a atteint près de 2 millions de dollars américains au premier jour de l'exposition. Du 4 au 8 avril 2018 est en cours Seoul International Coffee Expo. Dans cet événement annuel, l'ambassade ITBC Central et le ministère du Commerce sont toujours invités à faciliter nos exportateurs de café à participer à l'exposition. Alhamdulillah, hier, au premier jour, il y a eu des transactions enregistrées d'environ 2 millions de dollars.
Syukur Alhamdulillah, kemarin pada hari pertama saja sudah ada tercatat transaksi sekitar 2 juta dolar. Jadi cukup menggembirakan.
En outre, l'ambassadeur Umar Hadi a déclaré que la chance de l'Indonésie de dominer le marché du café sud-coréen était encore très grande. La diversité d'aigus des cafés de l'Indonésie est un facteur qui attire les importateurs et les habitants de la Corée du Sud. La Corée du Sud est le 11e plus grand importateur de café au monde et deuxième après le Japon en tant que plus grand importateur de café en Asie. Le président de la Guinée-Bissau, José Mario Vaz, reconnaît que l'Indonésie est un modèle et la Guinée-Bissau peut apprendre beaucoup de l'Indonésie, en particulier dans le secteur de la pêche. Il a été déclaré par Vaz à l'ambassadeur indonésien en Guinée-Bissau, Mansour Pangeran, à Dakar, au Sénégal, à La Réunion, après la cérémonie de la mise de lettres de créance au palais présidentiel de Guinée-Bissau, mardi. Cela a été dit par le chef de la fonction l'information et des affaires culturelles de l'ambassade de l'Indonésie à Dakar, Dimas Prihadi, à Londres, Cela a été dit par le chef de la fonction l'information et des affaires culturelles de l'ambassade d'Indonésie à Dakar, Dimas Prihadi, à Londres, le samedi. Lors de la réunion, Vaz a spécifiquement demandé de l'aide au prince de relier la coopération entre l'Indonésie et la Guinée-Bissau dans le domaine de la pêche et de la marine. Il a affirmé que la coopération dans le secteur de la pêche était une relation prioritaire entre les deux pays. Il se rendra en Indonésie en 2018. Il a également demandé à Prince d'inviter des hommes d'affaires indonésiens à investir dans d'autres domaines, entre autres, les noix de cajou qui sont abandonnantes en Guinée-Bissau. Au cours de la réunion, le prince a transmis ses salutations chaleureuses et l'amitié du président Joko Widodo, à Vaz, et au peuple de Guinée-Bissau, ainsi que l'engagement du gouvernement indonésien à améliorer les relations bilatérales dans divers domaines. Un gris de 1000 tonnes pour la Syrie signifie que la nation indonésienne est humaniste. Le vice-président du réseau de communication d'Aksi Cepat Tanggap, ACT, Iqbal Setiarso, a déclaré à Pro 3 RRI samedi que l'aide destinée à la communauté syrienne partirait le 21 avril via le port de Belawan, Medan. L'aide montre que la nation de l'Indonésie est une nation humaniste parce qu'il se soucie d'autres peuples en crise. La nourriture qui est envoyée est le riz qui est l'aliment de base de l'Indonésie. ACT a mené une action humanitaire et soutenue par des volontaires qui sont aussi des réfugiés. Les volontaires continuent de travailler ensemble pour faire face à la crise. Le musée Multatuli Lebak commence à être visité par de nombreux étudiants et touristes étrangers. Le musée Multatuli, situé dans la région de Lebak, Banten, est visité par les étudiants et les touristes étrangers. Le chef du département de l'éducation et de la culture de Lebak, Wawan Sukmara, a déclaré samedi à Lebak que, jusqu'à présent, la plupart des visiteurs du musée Multatuli sont des étudiants et des touristes étrangers de Pays-Bas, d'Angleterre, d'Allemagne et de France, y compris le directeur conservateur Multatuli, Ouis Amsterdam, les Pays-Bas, Clark Groot. Selon Wawan Sukmara, la présence du musée Multatuli situé en face du bureau gouvernemental de Lebak ajouté à la richesse culturelle de la région. Multatuli, alias Edward Douwesteker, était un résident néerlandais qui a servi en tant que résident adjoint de Lebak en 1850. Le musée Multatuli, entre autres, est équipé d'un VOC miniature de 34 artefacts Edward Douwesteker ainsi que d'articles d'ameublement. En outre, il y a une salle qui raconte l'histoire de la vie de Multatuli Eilia Osi, Lasal Distuar, De Banten.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers auditeurs, on se retrouve avec moi à TV dans la rubrique de mon Indonésie, dont le sujet est « Linas Gok apprend en Australie les techniques de sécurité pour l'arène de match de sport ». Le comité d'organisation des Jeux asiatiques de 2018, INAS GOG, étudie les techniques de sécurisation des championnats internationaux multisports, comme les Jeux asiatiques des Jeux du Commonwealth 2018 à la Gold Coast, Australie, lundi, le 9 avril. Cela a été dit par le représentant de l'adjoint 4 de l'INAS GOG, le grand commissaire Unggul Sediantoro, après avoir assisté à la réunion de coordination des Jeux asiatiques et des Jeux para-asiatiques à Jakarta jeudi. Il a déclaré que la présence des représentants de l'INAS GOG aux Jeux du Commonwealth de 2018 en Australie était l'étape de l'Indonésie pour obtenir des références sur les normes de sécurité des parties multisports dans l'arène, dans la zone de l'arène et dans la maison des athlètes. Auparavant, le président de l'INAS GOG, Erick Thohir, avait coordonné avec l'Agence nationale pour la lutte contre le terrorisme, BNPT, après la sécurité de plusieurs arènes des Jeux asiatiques. À cette occasion, BNPT a expliqué leur étude comparative sur la mise en œuvre des Jeux asiatiques à Incheon, c'est-à-dire interdiction de l'utilisation de drones, enregistreurs d'avions lors du jeu. En plus, la coordination entre l'INAS GOG et BNPT est également liée à la sécurité de l'hébergement des athlètes des Jeux asiatiques. BNPT a mené une étude comparative en Corée du Sud, lors des Jeux asiatiques de 2014 à Incheon et des Jeux olympiques d'hiver à Pyongyang en février 2018. Suhardi a déclaré que les endroits où les athlètes et les participants officiels du pays se réuniront, tels que l'emplacement de l'hébergement et les lieux du match à Jakarta, à Java de l'Ouest, à Banten et à Palembang, seront l'un des centres de sécurité. L'ancien chef de la division des relations publiques de la police a déclaré qu'en Corée du Sud, il y a zéro attaque et zéro accident. On espère que l'Indonésie pourra les atteindre avec la préparation maximale. Voilà mon Indonésie aujourd'hui.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers auditeurs, on se retrouve dans la rubrique de l'histoire d'aujourd'hui de RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie. Nous commençons par les événements du 8 avril 1938, la naissance de Kofi Annan. Kofi Annan est un diplomate Juggana. Il a été secrétaire général des Nations Unies du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2006. Il est devenu la première personne d'un pays d'Afrique noire à occuper la poste de secrétaire général. Le 1er janvier 2007, il a été remplacé par Ban Ki-moon. Il a reçu le prix Nobel de la paix en 2001. Depuis juin 2007, il dirigeait l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique. C'est une organisation à pour objectif d'améliorer la production agricole et les plantations en Afrique et de lutter contre la faim, manque d'eau propre et l'érosion des sols. L'organisation a été formée en 2006 par la Fondation Bill et Melinda Gates et à la Fondation Rockefeller dont la subvention est 150 millions US dollars. le 8 avril 1950, le pacte de Delhi a été signé. Le pacte est le résultat de 6 jours de pourparlers entre l'Inde et le Pakistan. Le premier ministre de l'Inde et du Pakistan, Jawaharlal Nehru et Liaquat Ali Khan, voulaient assurer le droit de minorité dans les deux pays, surtout éviter une autre guerre qui se déroulait depuis la division en 1947. La division du territoire de Pakistan et de l'Inde en 1947 a provoqué des émeutes communales. En décembre 1949, le commerce et l'industrie entre les deux pays ont été coupés. Les deux premiers ministres se sont rencontrés à Delhi le 2 avril 1950. Ils ont signé un accord pour protéger les droits des minorités. Cet accord, connu plus tard sous le nom de pacte Liaquat Nehru. Le 8 avril 2013, l'ancien premier ministre britannique Margaret Thatcher est mort après avoir subi un accident vasculaire cérébral. Elle est une femme politique de la Grande-Bretagne, le premier ministre de la Grande-Bretagne d'une durée maximale de 1979 à 1990. En tant que premier ministre, elle a mis en œuvre des politiques que les conservateurs connus comme thatcherisme. Le premier ministre Edward Head nommé Margaret Thatcher ministre d'État à l'éducation et de la science en 1970. En 1975, Thatcher a vaincu Head sur l'élection du président du Parti conservateur et est devenue chef de l'opposition, ainsi que la première femme à diriger un parti politique majeur à la Grande-Bretagne. Elle est devenue première ministre après avoir remporté l'élection de 1979. Thatcher a été réélue pour une troisième fois en 1987. Elle a démissionné en tant que première ministre et président du parti en novembre 1990 après Michael Heseltine a contesté son leadership. Après Thatcher a démissionné en novembre 1990, elle est restée en députée et assise sur l'arrière-ban jusqu'en 1992. C'était l'histoire d'aujourd'hui.
La mise au point de la semaine vous présente les questions d'actualité dans la semaine.
Bonsoir, chers auditeurs. On se retrouve avec moi, Tiwi, dans la rubrique de la mise au point de la semaine, dont le sujet est « Le train MRT sera testé ce mois-ci ». Deux séries de trains ayant chacun 6 wagons de transport en commun rapide ou mass rapid transit, MRT, sont arrivées aux portes de Tanjung Priok, Jakarta. Le plan? Le train commencera à être testé statique en avril 2018. Il a été dit par le ministre des Transports, Budi Karya Sumadi, jeudi, le 5 avril, aux portes de Tanjung Priok, Jakarta, où deux wagons de MRT du Japon ont été abaissés. Le ministre des Transports a déclaré que ce procès sera effectué strictement parce que les trains deviendront des transports de masse qui opèrent sous terre. Après avoir été testé statiquement en avril, cette série de trains sera testée dynamiquement en août 2018 et subira un véritable test en novembre 2018. Ces essais progressifs sont effectués avant que le train ne soit réellement utilisé pour le transport en commun, afin d'assurer la sécurité et le confort des passagers. Deux wagons sont arrivés au port de Tanjung Priok à la première passe de livraison de wagons de train du Japon. Les livraisons suivantes seront faites progressivement jusqu'à 96 wagons dans 16 trains jusqu'en novembre 2018. Monsieur Budi Karya Sumadi a déclaré Ketang donné ke setrang utilis un teknologi avancé, les ressources humaines qui l'exploitent doivent. Les ressources humaines qui l'exploitent doivent également être fiables, de sorte qu'il a été habitué à utiliser la technologie existante. Dans le même temps, PT Mass Rapid Transit, MRT, Jakarta, a déclaré que deux séries de trains ayant chacun 12 wagons sont déjà arrivées mercredi au port de Tanjung Priok, au nord de Jakarta. Le directeur du PT MRT Jakarta, William Sabandar, a déclaré à Jakarta que ce processus de livraison durera jusqu'à dimanche, le 8 avril, pour réduire l'impact de la densité du trafic. Le train MRT de Jakarta est un nouveau train fabriqué par la Société des chemins de fer de Nippon Chariot au Japon. William a dit que 14 séries de la prochaine série de trains commenceront à expédier à la fin de juin 2018. Tous les trains seront prêts pour la série de processus d'essai. Il a révélé que le MRT Jakarta sera circulé de 5h à 24h, heure de l'Indonésie occidentale, dont la portée ou la distance entre le train est 5 minutes pendant l'heure de pointe. Il espère que la présence de MRT Jakarta peut être une solution au problème de congestion de la capitale parce que le mode de vie de la communauté changera, c'est-à-dire de l'utilisation de véhicules privés au transport en commun. Voilà la mise au point de la semaine.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel Pesona Indonesia.
Bonsoir à tous. Merci d'être fidèle à notre antenne La Voix de l'Indonésie. Voici le magazine culturel. Dans cette édition, je présenterai le nasi tumpeng. Restez ici avec nous en streaming sur www.voinews.id ou RRI Play sur votre Android. Dans le passé, seulement le peuple de l'Indonésie sur l'île de Java, Bali et Madura qui a l'habitude de faire le tumpeng pour célébrer la fête ou à des événements importants comme la naissance ou d'une fête d'anniversaire ainsi que divers autres événements de célébration. Mais maintenant, presque tout le peuple de l'Indonésie est familier avec le tumpeng. Le tumpeng est un plat de riz en forme de cône comme la montagne, avec ses accompagnements, des légumes et des viandes. Le riz en forme de cône érigé sur tampa, en forme arrondie et faite de bambou tressé, recouvert d'une feuille de bananier et entouré par assortiment de plats indonésiens. Ce cône qui s'est hissé vers le sommet a la signification de l'espoir pour sauver nos vies encore plus vers le haut et toujours plus élevé. C'est pourquoi une forme conique doit toujours être maintenu et non modifié dans d'autres formes. Tumpeng est aussi un symbole de la vie et ses écosystèmes. Le cône imposant de riz symbolise aussi la gloire de Dieu ou le créateur de l'univers de son contenu. Et ces grandes variétés de plats d'accompagnement et légumes représentant le contenu de cette nature. La philosophie de Tumpeng est étroitement liée aux conditions géographiques de l'Indonésie, en particulier l'île de Java qui est remplie de volcans. Dans le passé, le Tumpeng dérivait du peuple de l'Indonésie qui glorifie la montagne comme lieu de résidence des esprits ancestraux. Après la communauté Java adhère et est influencée par la culture hindoue, le riz moulé en forme de cône destiné à mimer la forme de la montagne sacrée Mahameru qui est l'endroit où les dieux existent. Dans son développement, la tradition Tumpeng a été adoptée et associée à la philosophie islamique. Dans la société javanaise du musulman, avant le Tumpeng est présenté, sera précédé par la récitation du Coran. Dans la cérémonie de gratitude, après les gens prient, les hôtes de Tumpeng est coupé et remise à la personne la plus importante. Il ou elle peut être le chef de groupe, la personne la plus âgée ou l'être aimé, puis toutes les personnes profitent de la tumpeng ensemble. Avec tumpeng, les gens expriment la gratitude envers de Dieu et d'apprécier convivialité et l'harmonie. Une cérémonie annuelle impliquant tumpeng est communément appelée tumpengan. Dans de nombreuses villes indonésiennes, comme Yogyakarta, une tradition a été développée. La cérémonie tumpengan, une nuit avant le 17 août, le jour de l'indépendance indonésienne. L'événement a pour but de prier pour la sécurité et le bien-être de la nation. La célébration ou l'action de grâce, après la récitation de la prière, il existe une tradition non écrite, c'est donner le morceau de pouce de tumpeng à la personne la plus âgée, le plus important ou le plus honorable parmi les personnes présentes. Ceci est destiné à montrer du respect pour ces personnes. Ensuite, tout le monde a été autorisé à profiter ensemble du tumpeng. Grâce au tumpeng, la communauté montre la gratitude à Dieu ainsi que la célébration de l'unité de l'harmonie. Le tumpeng est généralement servi sur le tampah. C'est un récipient rond de bambou tissé et recouvert de feuilles de bananier. Il n'y a pas de plat d'accompagnement standard pour accompagner le riz de tumpeng. Mais les plats d'accompagnement importants doivent être composés d'animaux terrestres, comme le poulet ou la vache, d'animaux marins, comme les anchois, et des légumes, comme le kale, les épinards, ou l'haricot et les œufs. De l'explication ci-dessus, nous pouvons savoir que les humains doivent apprendre beaucoup de la nature. Le riz de tumpeng et la sélection de plats d'accompagnement et de légumes sont également étroitement liés à la relation entre les humains et la nature. Pour cela, chaque fois que le tumpeng de riz arrive à un événement, nous nous souviendrons de notre relation avec le Créateur et la nature et les leçons de vie que nous recevons de la nature. Chers auditeurs, voilà l'édition du magazine culturel d'aujourd'hui dont le sujet est l'origine et la signification de Nasi Tumpeng en Indonésie. Demain, nous nous retrouverons à la prochaine édition avec des autres sujets intéressants. Au revoir!
warna-warni. L'Indonésie en couleur présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Les auditeurs fidèles de la Voix de l'Indonésie, on se retrouve dans la rubrique de l'Indonésie en couleur. Dans cette édition, je vous parle du Festival culinaire de Solo de l'Indonésie 2018. Assurez-vous de rester avec nous à RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie à www.voinews.id. Chaque région de l'Indonésie a un goût, un processus et une méthode de présentation culinaire qui sont uniques. Cela devient une richesse pour le peuple de l'Indonésie. La diversité culinaire de l'archipel est présentée dans un festival culinaire dans la ville de Solo, Java Central. L'événement, intitulé le Festival culinaire de Solo de l'Indonésie 2018, est devenu un événement annuel à Solo. Et cette année est le 5e festival. Ce festival se tiendra du 12 au 15 avril 2018 au parking au sud du stade de Manahan, Solo. C'est tout à fait raisonnable parce que Solo a été désigné comme la destination culinaire numéro 1 en Indonésie. Le comité d'organisation fournit 170 stands qui fournissent une trentaine de plats traditionnels du passé, ce qui est unique. Le président du comité d'organisation de ce festival, Daryono, a déclaré que son côté présentera une variété de plats culinaires dont le but est d'introduire une grande variété de plats traditionnels indonésiens qui sont délicieux à la jeune génération. La nourriture traditionnelle qui est déjà rare sera présentée dans le passé des mots de cuisine. Cet événement présentera le processus de fabrication, de service et de façon de profiter de l'ancien culinaire. Sur les données de l'Agence économique créative de la République de l'Indonésie, le sous-secteur culinaire contribue à 41,4% du total de la contribution économique créative, soit 922 milliards de roupies en 2016. Ce montant est le plus élevé par rapport à ses autres sous-secteurs dans l'Agence économique créative. Selon Daryono, l'industrie de la création culinaire contribue à 40% dans le secteur du tourisme, donc la cuisine traditionnelle a le potentiel de soutenir le progrès de l'industrie du tourisme. Il a ajouté que son côté a délibérément soulevé le passé culinaire traditionnel qui avait été rare pour endiguer les rouées de la restauration rapide aujourd'hui. Alors que le menu du passé culinaire est en réalité plus sain, n'est pas étant et n'est pas moins compétitif avec la restauration rapide culinaire. Lors de ce festival, le comité coopéra avec le gouvernement local de Solo pour participer à l'affichage de la cuisine traditionnelle typique de la région. Selon Daryono, les menus du passé qui seront affichés sont cabuk rambak, tiwul, gatot, lenjongan, ainsi que divers autres aliments et boissons traditionnelles. Variété de con comme l'une des icônes nationales sera également servie au festival en 2018. En outre, le comité a également tenu Kampung Presiden Culinary Famtrit Awarding en invitant les touristes autour des destinations culinaires dans la ville de Solo et ses environs. Cette visite culinaire spéciale est la première expérience avec un objet de 25 participants. Hasta Gunawan, chef du bureau de tourisme de Solo, a déclaré que lors de ce cinquième festival, le festival Segoliwut, le festival Tengkaleng et le festival Sate Kere ont également eu lieu. Le comité distribuera gratuitement de la nourriture typique de Solo aux visiteurs. Le comité décernera également des récompenses aux les auteurs de petites et moyennes entreprises qui sont considérées comme fidèles à l'entreprise dans le domaine de la cuisine traditionnelle. Chers amis, voilà l'édition de l'Indonésie en couleur aujourd'hui. On se retrouve avec les autres sujets intéressants. Au revoir.
Pelangi Nada, le magazine musical vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis, merci d'être fidèles à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Courrier et musique. L'équipe de l'émission française de la voix de l'Indonésie vous remercie d'avoir envoyé les courriers, les cartes postales, le rapport d'écoute et le message. Nous allons saluer nos auditeurs et aussi présenter des chansons indonésiennes. Cette fois, nous présenterons des chansons pop chantées par une chanteuse qui s'appelle Rini Wulandari. En 2007, elle a remporté le concours de recherche de talent Indonesia Idol aux 4e session. Depuis ça, sa carrière professionnelle en tant que chanteuse était commencée. Rini est une chanteuse active, cependant parmi les nombreuses œuvres qu'elle a publiées, la chanson intitulée « Oh Baby » est l'aboutissement de sa carrière, parce que sur cette chanson, qui était sortie en 2014, elle travaille ce qu'elle veut. Elle fait changer le genre pop en R&B et EDM. Bon, cher ami, écoutez maintenant la première chanson intitulée « Fragile ». Chantée par Rini Wulandari.
Ingin tunjuk masa lalu, tapi masih ada harapan lagi yang baru. Kau tahu
Bonjour amis, vous êtes toujours à l'écoute de la voix de l'Indonésie à Jakarta dans la rubrique Courrier et musique. Merci à tous ceux qui nous ont écrit et envoyé les courriers, le rapport d'écoute et aussi le message. Maintenant, je vais dire bonjour à notre ami de l'Algérie, Abdelkadir Khalil, boîte postale 669 Al-Wahad Ouargla, Algérie. Et ensuite, Leila Ahmad de Tours, la France. Sergi Giovanni en Italie, précisément à Via Sibari, 49-149 Messina, Camaro Inférieur. Passons également bonjour à Farid Boumechal, rue de la Mosquée, numéro 06, parc à Fouras Batna, 05-000 Algérie. Comment ça va, mes amis? J'espère que vous êtes tous en bonne santé. Et restez toujours en contact avec nous. Nous allons également dire bonjour à Marichal Pierre en France, précisément à 17 allée Détrougéry, Lédry Bernard, à 19 rue Déjeu, 54570, Pouche, la France. Jean Barba est aussi en France, précisément à 168 avenue de Stade, Beaumont, la France, et Gauthier Gilles. Radio Club de Perche, 12 rue François Morioc, la France, et Jacques Agustin, 10 rue Hursinet, 93110 Rosny-sous-Bois, la France. Chers amis, merci d'écouter La Voix de l'Indonésie et écoutez maintenant d'autres chansons de Rini Wulandari intitulée Prouvez-moi. Bonne écoute. Side.
sadari rasa ini. Kau membuatku menyayangimu, meninggalkanmu aku tak mau. Yeah.
Ikuti tujuh lagu Indonesia di Fusa Depi Jakarta dalam rubrik Kurie Emosik. Chers amis, nous allons continuer de dire bonjour à notre auditeur, à Bernard Grondang, à Saint-Ruel-du-Pont, l'île de la Réunion, océan Indien. Toujours en France pour passer le bonjour à Maurice Mercier, à Saint-Trocette rue François Guiraud, Ville France, Jean-Marie Monplot, à 409 Faubourg Montmélian, 73000 Chambéry, La France, et aussi Christiane Guibaudot, rue Gaston Charbonnier, 06300 Nice, La France, et Franck-Jacques, en rue de Églantier, F49430 Will. Comment allez-vous? Je vous remercie d'être fidèle à la voix de l'Indonésie. Et voilà, chers amis, c'est la fin de ce courrier. Merci de continuer à suivre nos programmes. Toute l'équipe francophone de la voix de l'Indonésie vous dit un grand merci à tous. Nous attendons de bonnes nouvelles de vous et restez toujours en contact avec nous. Et voici la dernière chanson intitulée « Notre histoire est un ». Tous les deux sont chantés par Rini Wulandari. Merci à tous et à la semaine prochaine.
Aku dan kamu tercipta untuk selamanya.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes sur 9525 kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 9,5-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.